Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Tournez-vous vers moi et prenez-moi en pitié, Seigneur, car je suis seul et malheureux. Voyez ma misère et ma douleur et enlevez tous mes péchés, ô mon Dieu. Mes frères, ça fait 2 semaines que l'Église nous enseigne le grand devoir de la charité. Et comme saint Pierre, marchant sur les eaux, commença à enfoncer, nous-mêmes, il se peut qu'après 2 semaines d'enseignement sur la charité, eh bien, nous commencions à perdre pied. Cette introïte que nous venons de lire, « Tournez-vous vers moi et prenez-moi en pitié », cette introïte, dis-je, est le premier d'une longue série d'appels à Dieu qui se poursuivront jusqu'à la fin de l'année. C'est le cri de notre âme à Dieu pour qu'il vienne la secourir dans sa misère. Nous avons compris que sans la charité, nous ne sommes rien, et que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans la charité, nous ne sommes rien. Maintenant, nous devons comprendre que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Le bon Dieu ne nous dit pas « Soyez aimés, soyez charitables, aimez Dieu de tout votre cœur, etc., et votre prochain comme vous-même, et ensuite vous reviendrez quand vous aurez terminé votre copie. » Nous ayant donné ce commandement, nous devons comprendre que sans ce même Dieu que nous devons aimer, nous ne pouvons pas l'aimer ni notre prochain. C'est pour cela qu'il y a un enseignement spécial dans ce 3e dimanche après la Pentecôte, qui est dans l'octave du Sacré-Cœur, la fête du Sacré-Cœur. Il y a un enseignement spécial pour nous fortifier et pour nous apprendre ce que nous sommes, ce que nous valons, et pour nous fortifier. Nous devons acquérir, mes très chers frères, cette sainte habitude de crier à Dieu de tout notre cœur, non seulement quand nous allons mal, mais aussi quand nous allons bien. Si nous crions à Dieu simplement quand nous allons mal, Dieu est un petit peu comme la police, si l'on peut dire, ou les pompiers que l'on appelle que quand vraiment on est à la dernière extrémité. Sinon, on passe toute sa vie en se disant que, d'une certaine manière, il vaut mieux rester loin de ses officiers, loin de la police, parce que si on est un honnête citoyen, la police n'a pas besoin de s'intéresser à nous, et nous n'avons pas besoin de hanter la police, et loin des pompiers, parce que les pompiers sont là pour aider les gens qui sont dans de grandes difficultés, et notre souhait, c'est de ne jamais être dans de trop grandes difficultés, que Dieu nous garde. Donc, vous voyez, ce qui est compréhensible pour les autorités publiques n'est pas compréhensible du tout pour Dieu. Nous devons l'appeler à l'aide quand nous allons mal, mais nous devons aussi l'appeler à l'aide quand nous allons bien, et comme nous le disons souvent, surtout quand nous allons bien, d'une part pour préparer quand nous allons mal, et d'autre part parce que si nous allons bien, c'est ou bien qu'il nous laisse en repos en attendant une épreuve, ou bien que nous sommes dans un grand danger de nous relâcher parce que justement les choses vont bien, et il nous semble que nous avons moins besoin de Dieu alors que nous avons plus besoin de Dieu. Voilà ce que nous allons voir, mes très chers frères. Premièrement, que Dieu est notre pasteur, très aimant. Deuxièmement, qu'il est l'âme de notre âme. Et troisièmement, que nous devons apprendre à vivre comme ses enfants, comme ses brebis, et non comme des païens. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ dit cette parabole aux pharisiens qui se choquaient de ce que les publicains et les publicains et des pécheurs s'approchaient de lui pour l'écouter, et même qu'il allait manger avec eux pour mieux les évangéliser. Il leur dit cette parabole: « Qui d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met sur ses épaules plein de joie. Et arrivé chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Qui d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Mes très chers frères, il y a une difficulté dans cette question que notre Seigneur pose aux pharisiens, et qui nous pose à nous aussi. C'est qu'il faut être un berger très attentif pour prendre le risque de sacrifier 99 brebis pour en retrouver une qui s'est perdue. D'une certaine manière, voyez, quand nous avons des bergers dans la montagne, un peu au-dessus de chez nous, ici, et puis que des loups viennent dévorer les brebis, plutôt que de faire quoi que ce soit, on leur dit, alors ce serait de bons bergers qui voudraient protéger leurs brebis, on leur dit surtout ne vous attaquez pas aux loups, on vous remboursera. De telle sorte que se crée une nouvelle mentalité qui est que finalement on laisse paître ces brebis, et puis au matin on vient, on fait le compte de celles qui sont mortes, de celles qui sont déchirées par le loup, et on fait un rapport, on envoie ça à l'administration, et puis quelques temps après on est remboursé parce que les loups sont protégés. Notre Seigneur n'est pas de ce genre-là. Je ne jette pas la pierre puisque c'est la législation aujourd'hui, mais notre Seigneur n'est pas de ce genre-là. Il laisse les 99 brebis qui sont de bonnes brebis dans le désert ou dans Saint Matthieu, il dit sur la montagne. Quelles sont ces brebis, ces 99 brebis qui sont dans le désert ou sur la montagne? Sinon, mes très chers frères, et je pense à l'explication qu'en donne Saint Ambroise, sinon les bienheureux, qui sont dans cette solitude céleste, sur la montagne céleste, où les saints anges et l'Église triomphante contemplent Dieu dans la pureté et dans la solitude de la vision béatifique. Notre Seigneur laisse 99 centièmes des siens, les bons anges, l'Église triomphante, dans le ciel, pour venir à la recherche de la dernière brebis qui reste, et c'est, selon certains pères, l'humanité qui doit être sauvée, et c'est selon d'autres, et l'un n'exclut pas l'autre, chacun de nous qui sommes les brebis du Seigneur. Le Verbe divin s'abaisse jusqu'à notre monde, il prend chair de la Bienheureuse Vierge Marie pour devenir semblable à nous afin de rechercher la brebis perdue. C'est, dit Tertullien, une image touchante qui a beaucoup frappé les premiers chrétiens, de telle sorte que sur les calices avec lesquels les prêtres des premiers chrétiens célébraient le Saint-Sacrifice de la Messe, Tertullien dit qu'il y avait souvent un bon pasteur gravé dessus. On le retrouve aussi sur les calices de tous les temps, mais c'est quelque chose qui frappait beaucoup les premiers chrétiens, et je pense qu'effectivement il y a rarement dans l'Écriture une image ou une parabole, d'ailleurs qui revient assez souvent, qui soit aussi touchante et aussi expressive de l'amour de Dieu pour nous. Dieu est véritablement notre pasteur très aimant, et il délaisserait, si cela avait un sens, il délaisserait plutôt les 99 centièmes de l'Église qui sont au ciel pour venir chercher la centième partie de l'Église qui est sur terre et qui, du point de vue du berger qu'il est une mauvaise brebis. Car une brebis qui s'égare, ce n'est pas simplement une brebis qui n'a pas eu la présence d'esprit de retourner avec le troupeau, mais c'est peut-être une brebis rebelle, c'est une brebis aventureuse, c'est une brebis sotte, peut-être, qui se perd, alors que l'instinct des brebis est plutôt de suivre le troupeau. L'instinct du chrétien, c'est de suivre l'Église. Il arrive malheureusement que de nombreux chrétiens, ou un certain nombre d'hommes en général, se trompant et ne suivant pas l'Église, sont représentés par cette brebis perdue. Que dit la parabole? Il se met en route pour aller jusqu'à ce qu'il... Il la recherche pour aller à sa recherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Comment est-ce que notre Seigneur s'est-il mis à notre recherche? En s'incarnant de la Bienheureuse Vierge Marie, en vivant une vie cachée, ensuite en vivant une vie publique, en étant traité de sectateur du suppôt de Satan par les Juifs, en faux messie par les mêmes qui le rejetaient, quoiqu'il visse ses œuvres grandioses et divines. En faisant ceci, il est semblable au bon pasteur qui va par les crevasses de la montagne, par les ronciers, les épines, à la recherche de la brebis perdue. Certes, la brebis perdue est dans une situation difficile, dans une situation pénible. Personne qui a perdu de brebis n'a retrouvé sa brebis paisiblement au bar PMU du coin en train de prendre un sirop à la menthe. La brebis perdue est toujours une brebis qui est plus qu'égarée. Elle est coincée là où elle est. Et certains disent même que les brebis, quand elles sont égarées, sont en quelque sorte paralysées de frayeur. Et alors même qu'on les appellerait de loin, elles ne peuvent pas venir. Il faut aller physiquement près d'elles et les prendre par la main en quelque sorte, enfin les prendre sur les épaules. comme nous allons le voir dans un instant. Donc notre Seigneur a traversé ce monde, et contrairement à ce que disent les modernistes, les néotomistes et autres, toutes sortes de gens de même acabit, notre Seigneur n'est pas venu dans le monde pour goûter les plaisirs de l'humanité, chose qui manquait, expérience qui manquait à Dieu. Il n'a pas eu horreur de s'incarner dans le sein d'une vierge, dit le Te Deum, pour venir à notre recherche. Il se serait très bien passé de cette pénible expérience de venir visiter ce monde dégradé, ce monde corrompu, ce monde régi par Satan, ce monde régi par la triple concupiscence. Il se serait bien abstenu d'y venir dans ce monde, mes très chers frères. Ce monde, il le connaît très bien, contrairement à ce qu'on pense. Il n'a pas une sorte de fascination pour le monde humain. Il est venu voir ce que c'était que d'être homme. Il le sait très bien ce que c'est que d'être homme. C'est pour ça qu'il visitait nos premiers parents dans le jardin d'Éden terrestre, dans le paradis terrestre. Et il sait très bien ce qu'est devenu l'homme déchu. C'est pour cela qu'il l'a chassé du paradis originel. C'est pour cela qu'il le déteste à cause du péché originel. C'est pour cela que lorsqu'il veut le sauver, il le fait mourir et ressusciter dans le Christ par l'efficace du baptême. Sinon, Dieu ne veut rien avoir à faire avec ce monde. Bossuet dit dans son traité de la concupiscence que ce monde-là, Dieu ne veut rien avoir de commun avec lui, rien avoir à faire avec lui. Donc ce n'est certainement pas pour venir en villégiature parmi nous que notre Seigneur s'est incarné. Il s'est incarné en quelque sorte, je vais parler comme un homme, mais surmontant son grand dégoût pour nous, il s'est incarné pour une raison bien précise que nous mentionnerons dans un instant. Donc il va à sa recherche, et ce n'est pas une petite chose. Il va à sa recherche parce qu'il l'aime. Il va à sa recherche parce qu'elle lui appartient. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met sur ses épaules plein de joie. Il la met sur ses épaules. Saint Ambroise dit ceci, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes, en tant que brebis, sur les épaules de notre Seigneur, nous sommes identifiés au Christ sur la croix. Et Saint Ambroise de dire, c'est là, c'est sur la croix, que je me suis dépouillé de mes péchés. Vous voyez, ce fardeau de péché que nous transportions partout avec nous, nous l'avons perdu à la croix. Notre Seigneur, nous prenant sur ses épaules, ne nous met nulle part ailleurs que sur sa croix, et c'est pour cela que Saint Paul dira, je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Notre Seigneur nous met donc sur ses épaules, il ne nous met pas dans sa camionnette, il ne nous met pas dans un sac, si j'ose dire, il ne nous met pas sur une charrette, il nous met sur ses épaules à lui, ses épaules qui ont porté tout le poids de notre fardeau, qui ont porté tout le poids de notre péché, mes très chers frères. Vous voyez, l'immense amour d'un Dieu du Fils de Dieu qui s'incarne pour venir nous chercher, surmontant le dégoût qu'il a de notre condition, le Fils de Dieu qui vient mourir pour nous et dont la mort est l'efficace de notre salut. Le mort meurt sur la croix pour revivre dans le Christ, le mort spirituel. En regardant au Sauveur, en croyant en lui, en regardant au Sauveur en croix, je suis guéri de la morsure du serpent ancien, tout comme les Hébreux, nos pères dans le désert, mordus par les serpents brûlants à cause de leur prévarication, regardaient au serpent crucifié par Moïse et étaient guéris. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, dit notre Seigneur à Saint Nicodème, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Seigneur, c'est l'antidote à la morsure du serpent ancien. La seule chose, comme le serpent ancien nous a fait mourir, notre Seigneur qui est le si j'ose dire, le serpent de bronze véridique, véritable, le serpent sauveur, tel que Moïse nous l'a montré de la part de Dieu, c'est lui qui prend sur nous notre venin et qui nous en purge. Notre Seigneur nous prend donc sur ses épaules, nous, brebis perdus, et il est rajouté quelque chose dans l'Évangile, il est dit, Imponit innumeros suos gaudens. Il la pose, il la met sur ses épaules en se réjouissant. Gaudens. L'amour de Dieu pour nous, l'amour que Dieu a pour fin de nous faire participer à sa nature divine. Donc ce n'est pas que Dieu se réjouisse, que le Christ se réjouisse d'avoir rencontrer un ami supplémentaire, à inviter dans son petit goûter, non pas que Dieu se réjouisse qu'il y ait des gens qui aient bien voulu daigner venir à son repas, qui apparemment est dédaigné par les gens pour lesquels il était préparé. Notre Seigneur se réjouit. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire, mes très chers frères, parce qu'il se réjouit de nous faire du bien. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas expérimenter pleinement et au sens divin dans notre vie ici-bas. Dieu se réjouit de ce qu'il peut et qu'il va nous faire du bien. Lorsque nous nous réjouissons de ce que la personne à laquelle nous faisons du bien va mieux. Et si, d'une certaine manière, nous nous réjouissons pour une raison finalement égoïste, nous sommes réputés intéressés quand nous faisons du bien. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu, lorsqu'il sauve une âme, se réjouit parce qu'il va la faire participante de sa nature divine. Pourquoi est-ce qu'il se réjouit? Il se réjouit pour une raison mystérieuse que nous ne connaissons et que nous ne pouvons connaître et aborder que par le dogme de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime, quoique nous soyons haïssables. Dieu nous aime, quoique nous soyons horribles. Dieu nous aime, quoique nous soyons laids. Et dans son Fils auquel il nous a donné, il se réjouit de nous rendre participants de sa nature divine. En attirant efficacement une âme à lui, Dieu se réjouit car son plan rédempteur se réalise. Lorsque nous lançons une invitation et qu'il y a des gens qui se présentent, nous nous réjouissons de ne pas avoir été méprisés par le public. Il n'en va pas de même pour Dieu. Lorsque Dieu lance une invitation, il s'assure que même ceux qui ne veulent pas venir sont contraints d'entrer. Je vous renvoie à l'évangile de la semaine dernière. De telle sorte que parfois, eh bien, on peut se dire, mais finalement, ce n'est pas moi vraiment qui ai choisi de venir dans l'Église, j'ai l'impression que j'y ai été attiré pour une raison ou pour une autre, et puis je me retrouve dans l'Église. C'est Dieu qui se réjouit de nous faire ce merveilleux tour. Son plan rédempteur se réalise, et nous ne pouvons pas le contrer. Vous allez dire, mais nous pouvons résister à la grâce. Ne vous inquiétez pas, mes très chers frères, de très subtils théologiens ont insisté pour que tout le monde croie et professe que l'on peut résister à la grâce. Bien sûr que l'on peut résister à la grâce, et je vais vous dire, on n'a même pas besoin d'être baptisé pour résister à la grâce. Maintenant, il est une grâce à laquelle on ne résiste jamais, c'est la grâce par laquelle Dieu veut sauver efficacement un homme. Tous les hommes refusent la grâce de Dieu et résistent à la grâce de Dieu. Ne vous inquiétez pas, c'est une chose très répandue et très naturelle à l'homme. Heureusement, Dieu surmonte la nature déchue et fait que certains croient. Même des fois, ils croient contre eux-mêmes. Ils savent que embrasser le christianisme, ça va bouleverser leur vie, ça va détruire leur orgueil, ça va ruiner leur confort mondain, et ils se convertissent quand même. Comment cela peut-il se faire? Parce que quelque chose les attire infailliblement, irrésistiblement, et ça s'appelle la grâce efficace. Sans cette grâce, nul ne peut être sauvé. Avec cette grâce, nul ne peut être perdu. Voilà pourquoi, mes très chers frères, notre Seigneur se réjouit. Il se réjouit de ce que sa volonté ne rencontre aucun obstacle. Des hérétiques ont dit qu'il était hérétique de dire que la volonté du Christ s'accomplit toujours infailliblement. La doctrine de l'Église dit que ce que le Christ veut s'accomplit infailliblement. Donc Dieu se réjouit. Il se réjouit de ce que rien ni personne ne lui résiste. Il se réjouit d'avoir retrouvé cette brebis et de l'avoir mise sur ses épaules, de l'avoir identifiée à son fils en croix et de lui avoir restitué la vie qu'elle avait perdue dans la prévarication de nos premiers parents. Et puis il dit à ses voisins et ses amis, il les assemble et il dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Les pères nous disent que c'est les voisins et les amis de Dieu, dans la parabole, ce sont les saints et les anges qui sont dans le voisinage et qui sont les amis de Dieu. Et lorsqu'un pécheur fait pénitence et qu'il se repent et qu'il est sauvé à la fin de sa vie, eh bien, il y a une très grande joie devant les anges. Et les anges sont invités à se réjouir avec notre Dieu. Mais notre Seigneur donne une deuxième parabole pour mieux faire comprendre. Il dit, Et quelle femme possédant 10 drachmes, si elle en perd une, n'allume la lampe et ne la balaye, de balaye sa maison et ne cherche soigneusement jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et l'ayant trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines en disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » La drachme, nous disent les commentateurs, est une petite monnaie qui porte l'image de l'empereur, un peu comme le denier, mais avec moins d'importance, moins de valeur. L'homme, je vous ai dit que je vous dirai pourquoi Dieu est allé chercher l'homme. Eh bien, l'homme porte l'image de Dieu en lui. C'est un lieu commun chez les pères dans l'explication de cette parabole. L'homme porte l'image de Dieu en lui, et lorsque cette drachme, cette petite monnaie, est perdue, a roulé quelque part dans la poussière, dans la boue, la sagesse divine, représentée par cette femme de la parabole, se met à la recherche de cette drachme qui est perdue, qui lui appartient parce que son image est imprimée en elle. Vous vous souvenez ce que nous avons dit à plusieurs reprises il n'y a pas si longtemps à propos du roi qui verrait un portrait ou de lui ou ses armes foulées aux pieds dans la rue. L'homme est inexistant face à Dieu quand il ne vit pas conformément à sa nature. La nature de l'homme, c'est de vivre à la gloire de Dieu. Lorsque l'homme ne vit pas la gloire de Dieu, Dieu le considère comme une brebis perdue, comme une drachme perdue. C'est-à-dire que ce n'est pas une monnaie qui est dans le porte-monnaie de Dieu, mais qui ne se refuse à être utilisée, etc. Il n'existe pas. Il existe sous un certain rapport, mais il existe en tant qu'enfant de la colère, en tant qu'enfant du diable et promis à la destruction, à l'enfer éternel. L'homme existe dans un état haïssable aux yeux de Dieu quand il ne vit pas conformément à sa nature. Créé à l'image de Dieu, l'homme a été défiguré par la chute. Et par quel moyen notre Seigneur vient-il à sa recherche? Dans la parabole de la brebis perdue, c'est lui-même qui se met à sa recherche, et nous avons vu qu'il s'agissait de toute l'histoire du salut, l'incarnation, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Il s'agit d'une chose, la même chose, mais d'une façon polarisée, d'une façon légèrement différente dans la deuxième parabole. Il la cherche, comment? Par la lampe et par le balai. Si elle en perd une, quelle femme n'allume la lampe et ne balaye sa maison et ne cherche soigneusement jusqu'à ce qu'elle la retrouve? La lampe, disent les pères, c'est l'écriture sainte. Votre parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, dit le psalmiste. Et le balai, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ne riez pas, mais c'est le ministère apostolique, c'est les évêques, ce sont les prêtres, qui sont là pour faire le ménage, pour balayer, pour décrasser, dans un sens tout à fait noble. C'est-à-dire qu'ils sont là pour restituer à Dieu ce qui appartient à Dieu, mais qui est sale. C'est pour ça que c'est aux prêtres, spécialement aux évêques, de baptiser. Vous voyez, tout le monde peut baptiser théoriquement, mais il faut, dans la mesure du possible, laisser les prêtres baptiser. Il ne faut pas baptiser à tire-larigot les gens sous prétexte que tout le monde peut baptiser. C'est une erreur. Le balai peut être délégué dans certaines circonstances extraordinaires, mais le balai, c'est l'outil, si j'ose m'exprimer ainsi, l'outil des prêtres. C'est eux qui font passer la drachme sale à l'état de drachme propre. C'est par le ministère de l'Église que la sagesse éternelle retrouve ce qui est à elle. Ce n'est pas parce que les hommes ont compris quelque chose de traditionnel à propos de Dieu, de l'image de Dieu, que tout d'un coup ils se mettent à être ils sont retrouvés par Dieu et ils se mettent à être des vrais chrétiens. C'est dans la mesure où ils sont intégrés dans l'Église, où, comme quand ils ne sont pas baptisés, ils sont baptisés et sont rendus membres de l'Église catholique, et s'ils sont baptisés dans d'autres églises, dans d'autres religions, eh bien, où ils renoncent à leur schisme et à leur hérésie, et où ils intègrent l'Église. C'est comme cela que la sagesse éternelle retrouve la drachme qui lui appartient et sur laquelle son image est imprimée. Nous sommes à Dieu, et c'est pour cela qu'il nous recherche. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais au Christ. C'est pour cela que le Christ est venu nous chercher. Il est venu chercher ce qui lui appartenait. Voilà pourquoi l'oraison d'aujourd'hui est fondamentale. Elle nous fait dire ceci à Dieu. Protecteur de ceux qui espèrent en vous, ô Dieu sans qui rien ne vaut, rien n'est saint. Multipliez sur nous votre miséricorde, afin que, gouvernés et guidés par vous, nous passions au milieu des biens temporels sans perdre les biens éternels. Dieu est tout d'abord notre protecteur, protector in te speranzium Deus. Dieu est notre protecteur. Que signifie notre protecteur? Ça veut dire qu'il met un toit sur notre tête, littéralement. Il préserve seul nos mérites, étant lui-même la source de tout bien, donc de tout mérite. Si Dieu peut préserver les mérites que nous avons accumulés, c'est parce que c'est lui-même qui en est la source. S'il préservait quelque chose qui nous appartenait à nous-mêmes, comme dit le proverbe vulgaire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et d'une certaine manière, puisqu'on aurait un Dieu si faible, que peut-être qu'il serait jaloux, et peut-être qu'il pourrait finalement nous faucher nos mérites qui nous appartiennent à nous. Mais si nos mérites à nous, qui sont véritablement à nous, sont avant tout et inaliénablement les siens, alors nous faisons bien de les remettre entre ses mains, de ne pas nous préoccuper de ce que nous méritons, de tout remettre entre ses mains, entre les mains de la Sainte Vierge, ce qui revient à la même chose, tout remettre entre ses mains et de nous activer pour nous laisser conduire par Dieu et marcher dans ses sentiers. Il y a des gens qui se baladent avec des petits carnets, qui notent constamment chaque oraison jaculatoire, combien d'indulgence cela leur vaut. Je ne dis pas que ça n'a pas peut-être une vague vertu pédagogique ou psychologique, mais enfin, ce n'est pas tout à fait l'esprit de l'Église, en tout cas de l'Église primitive. Dieu est notre protecteur, c'est lui qui garde notre trésor au ciel, où il nous exhorte à l'amasser, et non pas sur la terre. C'est notre protecteur. Donc, voyez-le littéralement comme celui qui met un toit sur notre tête. Si nous habitons dans un palais, c'est Dieu même qui est le palais dans lequel nous habitons. Et il est le roi. Et il est dit, sine quo nihil est validum, nihil sanctum. Aujourd'hui, il faut faire attention à ces expressions, parce que ça peut être mal compris, mais ô vous, ô Dieu protecteur de ceux qui espèrent en vous, sans lequel rien n'est valide, sans lequel rien n'est saint. Validum signifie efficace, fort, puissant, comme un remède qui est efficace. Sans Dieu, rien n'a de force. Et évidemment, sans Dieu, rien n'est saint. Vous voyez, si l'Église disait simplement « sans vous, rien n'est saint », on pourrait dire « oui, mais il y a plein de biens naturels ». Oui, mais le bien naturel est sans force, il est invalide. Sans Dieu. C'est-à-dire que le meilleur des païens, ou le meilleur des chrétiens qui ne vit pas à la hauteur des engagements de son baptême, qui commet des bonnes œuvres, qui fait des bonnes œuvres sans la charité, sans les faire pour l'amour de Dieu et pour la gloire de Dieu, tout le bien qu'il fait est invalide. Sine quo nihil est validum. Tout le bien que nous pouvons faire en nous passant de Dieu est sans aucune validité aux yeux de Dieu. Certes, nous faisons un peu de bien aux gens, etc., ce n'est pas un problème de le reconnaître, mais tout ceci ne vaut que pour le temporel. Pour l'éternel, tout ceci est invalide. Et rien n'est saint, nous comprenons bien que tout le bien que nous faisons doit être validé par Dieu, sans lequel rien n'est valide, et doit être sanctifié par Dieu, sans lequel rien n'est saint. Dieu apparaît comme, mes très chers frères, Dieu apparaît comme le moteur et la fin de notre vie, la finalité de notre vie. Il est l'âme de notre âme, pour employer cette expression osée mais véridique au mystique, il est l'âme de notre âme qui donne à notre âme la vie véritable. Et celle-ci se caractérise, mes très chers frères, par le fait que nous passons par les biens temporels sans perdre les éternels. C'est la fin de l'oraison. Afin que, gouvernés et guidés par vous, nous passions au milieu des biens temporels sans perdre les biens éternels. Lui dirigeant, lui conduisant, nous passions au milieu des biens temporels. Nous passons au milieu des biens temporels en pieux gérants ou pieux usagers. La brebis est égarée, pourquoi? Parce qu'elle est happée par les biens du monde. Elle est happée par la concupiscence. D'où le fait que ce qui caractérise le chrétien, ce n'est pas simplement le fait qu'il use de tout modérément, un peu comme il y a dans les publicités pour l'alcool, à user, comment est-ce qu'on dit, boire avec modération, je ne sais pas. Ce n'est pas ça Sinon, ça c'est à la portée d'un n'importe quel païen, d'un législateur humain. Dieu nous demande d'user comme n'usant pas, c'est-à-dire d'être très fidèles dans nos devoirs d'État respectifs, mais d'être extrêmement détachés, et on ne peut pas être détaché d'une façon simplement nominale, volitive. Nous sommes détachés par la mortification des sens, par les jeûnes, par la pénitence. C'est le mode de vie des rachetés. Le racheté qui ne jeûne jamais, sauf quand c'est absolument utile, utile, oui, évidemment, sauf quand c'est absolument imposé par l'Église, et alors là, il gratte des dispenses en tout genre. Le racheté qui ne fait jamais pénitence, qui ne jeûne jamais, qui ne se mortifie jamais, qui ne mortifie jamais ses sens, ne vit pas une vie de racheté. Il vit plutôt la vie d'une brebis égarée dans les biens temporels, qui a perdu le chemin des biens éternels parce qu'elle n'est plus gouvernée et guidée par le bon pasteur. Alors comment, mes très chers frères, nous terminons par ces considérations, comment apprendre à vivre, comment vivre conformément à notre dignité d'enfant de Dieu? Eh bien c'est très simple, l'Église a tout prévu, saint Pierre nous le dit. Mes bien-aimés, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps de sa visite. Notre vie est toute d'humilité et de soumission à Dieu. Saint Jacques dira, soumettez-vous à Dieu. Il faut se soumettre à Dieu, mes très chers frères, se soumettre à sa volonté, se soumettre à son Église. C'est toute la doctrine des États où nous sommes tous soumis à quelqu'un. Il faut que nous nous soumettions à Dieu si nous voulons être gouvernés et guidés par lui. Si nous arrivons à être constamment en dehors de l'ordre, de tout ordre, et n'avoir jamais aucun maître, n'avoir jamais aucun guide, eh bien, il se trouve que nous guidant nous-mêmes, nous allons finir par être comme cette brebis qui est finalement perdue, loin des 99 autres. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps de sa visite. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est un crime pour le chrétien, mes très chers frères, que de conserver ses soucis. Nous avons des soucis. Et Dieu ne nous dit pas, en cas de besoin, vous aurez une oreille attentive, éventuellement je peux vous donner un coup de main. Non, il vous dit, vous avez des soucis, eh bien, il faut que vous les déchargiez sur Dieu, sinon vous êtes un rebelle à Dieu. Évidemment, on pourrait dire, mais parlez-nous d'une façon un petit peu plus douce, parce que c'est pas comme ça qu'on va inciter les gens, des chrétiens qui ont des soucis, à se décharger de leur fardeau sur Dieu. C'est faux! Pourquoi est-ce que les chrétiens ont des soucis et se complaisent dans leurs soucis? Parce qu'ils se défient de Dieu. Ils savent que leurs soucis sont des soucis par lesquels ils se soucient de leur concupiscence. Ils demandent, mais tout en se souciant, de telle sorte qu'ils ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce que saint Jacques dit, vous demandez et vous n'obtenez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal afin de satisfaire vos concupiscences. Déchargez-vous de tous vos soucis. Quels sont les soucis qui vous tracassent, mes très chers frères? Chacun aura une réponse différente. Eh bien, il faut s'en décharger sur Dieu. Ça ne veut pas dire avoir un esprit de je m'en foutisme. Évidemment, vous avez bien compris. Ça veut dire que nous devons, en toute chose, poursuivre la gloire de Dieu en nous détachant de tous les soucis qui ont trait à la crainte de ne pas pouvoir y arriver. Vous allez dire, pourtant, il y a plein de choses qui empêchent que je vive en bon religieux, en bon père, en bonne mère de famille, en bon prêtre, que sais-je. Ces choses-là sont extérieures. C'est pour cela que Saint-Pierre nous dit, soyez sur vos gardes et veillez, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui il pourra dévorer. Celui qui garde son souci, qui le cultive et qui se dit, comment est-ce que je pourrais être meilleur afin d'avoir une meilleure opinion de moi-même? Celui-ci sera dévoré par le diable. Le diable rôde, il cherche, on voit sa truffe, si j'ose dire, de lion rugissant qui s'immisce par les moindres interstices de la porte, de la fenêtre, que sais-je. Il faut se barricader contre le diable. Sinon, il est là et, un petit peu comme on voit les chats faire des fois, il passe sa patte dessous et nous voyons cette patte griffue qui essaye d'attraper, d'entraîner quelque chose de l'autre côté de la muraille, de l'autre côté de la porte, de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de la borne. Vous voyez, les auteurs que j'ai consultés nous disent qu'il ne faut surtout pas prendre cette expression de Saint-Pierre pour une sorte de métaphore hyperbolique. Le diable véritablement rôde autour de nous. Il est comme un lion dont nous pouvons sentir la laine fétide. Il cherche qui dévorer. Pourquoi? Parce que depuis que le Christ l'a vaincu à la croix, il meurt de faim. Donc il veut s'emparer d'une âme ou deux pour les dévorer, pour les croquer, pour les dévorer. Et la brebis perdue est une proie de choix. Alors vous allez dire, mais le Christ va la chercher. Il va la chercher, et il faut désormais qu'elle ne pêche plus. Il va la chercher, notre Seigneur va nous chercher autant de fois qu'il a besoin d'aller nous chercher, si j'ose dire, et gloire à lui. Mais il se trouve que nous-mêmes, nous devons non pas nous comporter comme une brebis insouciante qui se dit « bon, finalement, le bon pasteur va venir me chercher de toute façon », mais une brebis vigilante, attentive, qui ne se laisse pas appâter par le diable, qui ne se laisse pas sortir de sa vigilance et de sa veille. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi, et il nous dit quelque chose qui est très intéressant, et en même temps, c'est là où nous allons nous apercevoir si nous étions orgueilleux ou humbles. Sachant que vos frères qui sont répandus dans le monde souffrent les mêmes afflictions que vous. Vous voyez, souvent lorsque nous souffrons, nous sommes secrètement flattés par le fait d'être un cas de souffrance unique en son genre. Je suis attaqué par le diable d'une façon très particulière parce que je suis quelqu'un de très particulier. Que nous dit Saint-Pierre ? Pas du tout ! Vous êtes un chrétien, vous êtes donc nécessairement attaqué par le diable. Tous vos frères dans le monde souffrent de la même manière que vous. Vous voyez, si je me révolte en me disant « Ah bon, tout le monde souffre comme moi, alors ça vaut… Alors quoi, mon très cher frère, ça ne vaut pas la peine de souffrir ? Je ne suis plus original. Je ne suis plus un original, effectivement. » Donc vous voyez, mes très chers frères, combien l'orgueil se cache au fond même de notre misère, de notre détresse, de nos soucis. C'est pour cela qu'il est écrit dans l'Épître « Jetez, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Et dans le graduel, c'est le psaume qui dit à peu près la même chose. « Iacta cogitatum tuum in domino ». Remets tes soucis au Seigneur et lui-même te nourrira. Lorsque je veux me sortir de mes soucis par ma propre force, je veux avoir la gloire de pouvoir dire « Je m'en suis sorti tout seul ». Eh bien, mes très chers frères, je suis dans ces dispositions-là une véritable proie pour le diable. Et faisons attention. Car si nous savons que le bon Dieu va chercher la brebis, nulle part il est dit qu'il va chercher l'ivraie. Tous les chrétiens sont éprouvés également. Et saint Paul et saint Pierre nous dit, mais après que vous aurez souffert un peu, voyez, vous allez dire, je souffre beaucoup, ça ne me concerne pas. Souffert un peu, vous avez été crucifié la tête en bas déjà? Vous avez été décapité pour le Christ? Comme c'était la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul hier, vous avez déjà répandu tout votre sang pour le Christ ? Non. Alors, revenons à ce que dit Saint-Pierre. Après que vous aurez souffert un peu, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à son éternelle gloire dans le Christ Jésus, achèvera lui-même son œuvre, vous fortifiera et vous affermira. C'est peut-être le diable qui nous fait souffrir, car Dieu utilise le diable souvent pour nous faire souffrir, comme nous le voyons dans l'histoire de saint Job. Mais Dieu lui-même, après cette épreuve préliminaire, si j'ose dire, Dieu lui-même achèvera son œuvre, nous fortifiera et nous affermira. Tout ce qui nous arrive, mes très chers frères, est une épreuve. Une épreuve de notre foi, une épreuve de notre espérance, une épreuve surtout de notre charité. Si nous avons des soucis et que nous refusons de les jeter sur Dieu, littéralement, ça veut dire que nous les gardons pour nous-mêmes dans un esprit d'orgueil. Si nous nous humilions sous la main puissante de Dieu, nous savons, certes, c'est humiliant, bien sûr, c'est l'humilité, mais qu'il nous élèvera au temps opportun. Il nous fortifiera et nous affermira. Et c'est pour cela que nous devons conclure avec Saint-Pierre qui dit « À lui soit la gloire et l'empire dans les siècles des siècles ». Si nous ne disons pas cela, mes très chers frères, c'est que nous retenons quelque chose contre Dieu, et donc que notre cœur n'est pas pur, et nous sommes dans le désert, dans la montagne, dans le mauvais sens du terme, perdus, errants, selon notre propre cœur. Dieu, pour nous joindre à son troupeau céleste, doit détruire en nous notre malice. Et cela ne peut se faire que lorsqu'il nous prend sur ses épaules, c'est-à-dire qu'il nous identifie à son Fils crucifié. Un auteur nous dit, la conformité à Jésus-Christ souffrant est le solide fondement de la prédestination des saints. Alors mes très chers frères, nous savons maintenant ce que nous devons faire. Faisons-le avec l'aide de Dieu et prions sans cesse Dieu sans lequel rien n'est valide, rien n'est saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Merci.